Alors, je dis trois questions, mais en fait, ça va être beaucoup plus parce que ce sujet mérite davantage. On va faire un point sur la transposition d'une directive européenne majeure en matière de cybersécurité. Elle s'appelle NIS 2 et Alain Bouyer est avec moi pour nous en parler. Bonjour Alain.
Bonjour.
Vous êtes ancien RSSI, responsable donc de la sécurité des systèmes d'information de la Caisse des dépôts et consignations. Vous êtes le cofondateur et aujourd'hui délégué général du CESIN, qui est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. C'est une association qui rassemble donc les responsables de la cybersécurité, qui comptent parmi ses membres plusieurs organismes, institutions. On peut citer l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la Gendarmerie nationale, la CNIL, mais aussi le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, cybermalveillance.gouv.fr, et j'en passe. Et donc, le CESIN s'est récemment engagé dans une collaboration avec l'ANSSI concernant la transposition nationale de cette directive NIS 2. J'aimerais qu'on fasse un petit rappel sur ce qu'est NIS. Et puis, pourquoi ce NIS 2 n'est pas simplement une évolution d'un NIS 1, mais quelque chose de bien plus important.
Très bien, on va essayer de faire ça. Alors, NIS, Network and Information Security, on a eu effectivement la directive NIS 1 il y a quelques années. Et aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de prendre NIS 1 et simplement d'élargir le périmètre. C'est plus fin que ça, évidemment. Donc il faut. NIS 1, c'était vraiment destiné aux grandes entreprises stratégiques. On avait eu avant les OIV. Ces grandes entreprises stratégiques donc, qui contribuent finalement au fonctionnement de l'État, il fallait en effet qu'elles aient un niveau de sécurité à l'état de l'art. Ouais. Et c'était OIV, NIS 1, grosso modo 500 entreprises étaient concernées. Là, on change de dimension, puisqu'on parle d'une quinzaine de milliers d'entreprises qui vont être en France assujetties à NIS 2. C'est une directive européenne, c'est-à-dire qu'elle se décline dans chaque pays européen. Et l'objectif premier, c'est déjà d'harmoniser les mesures de sécurité qu'on va mettre en place dans les entreprises, en premier lieu. Mais évidemment, 15 000 entreprises, il n'y a pas que des grandes. Alors, il y a des entreprises qui sont assujetties à NIS 1 aujourd'hui, qui vont être assujetties à NIS 2 et pour lesquelles, finalement, le périmètre va simplement augmenter de ce qui va être contrôlé, tandis que d'autres entreprises qui sont assujetties à rien aujourd'hui, eh bien, vont découvrir le merveilleux monde de la réglementation.
Oula.
Et effectivement...
Ça qu'on passe de 0 à NIS 2, ça doit faire tout de suite...
Ça fait drôle.
Un saut important.
Parce qu'effectivement, si vous voulez, il y a des entreprises aujourd'hui, membres du CESIN, qui ont des gouvernances sécurité, des organisations sécurité. Elles sont assujetties à rien, mais quand elles vont avoir NIS 2 qui va les réguler, ça ne sera pas un saut quantique. Ça va être quelque chose d'assez léger. Par contre, les quelques milliers d'entreprises qui aujourd'hui sont au degré zéro de la cyber, eh bien effectivement, ça va être pour elles quelque chose de très important. Et du coup, ce qu'a fait le législateur, c'est qu'il a créé plusieurs niveaux d'entités. Alors on a les entités essentielles et les entités importantes. Alors pour schématiser, les entités essentielles, ça va être les grosses entreprises, celles qui contribuent fortement, je dirais, à la continuité du pays. Et puis les entités importantes, ça va être celles qui sont certes importantes, mais un peu moins essentielles que les autres.
Par exemple, alors, on parle de qui aujourd'hui est au niveau zéro, je dirais, des obligations en matière de cybersécurité au niveau européen et qui va d'un seul coup devoir adopter ces réglementations NIS 2. On parle de qui ? On parle des collectivités territoriales,
alors,
par exemple ?
Certaines collectivités vont effectivement être dans le scope. C'est encore en cours de discussion. Mais vous avez, par exemple, des entités comme les transports, par exemple.
Oui.
Bon, les transports, NIS 1, OIV, on avait la RATP, la SNCF, on avait, bref, des gens qui ont, depuis des années, mis en place ce qu'il fallait en matière de cyber et qui, avec NIS 2, auront peut-être un périmètre qui va augmenter. Mais bon, ce sera encore une fois sans trop de douleur. Mais les transports, c'est pas que la SNCF et la RATP. Donc, vous pouvez avoir des kyrielles d'entreprises qui contribuent effectivement à la bonne marche du pays dans le domaine du transport et qui vont se retrouver en effet sous le joug de NIS 2.
Peut-être des entreprises de petite taille.
Oui, alors vous prenez...
En fait, la dimension de l'entreprise n'est pas le critère retenu.
Si. Alors, il y a plusieurs critères qui sont retenus, justement. Bon. Et ces critères ne sont pas toujours très limpides. Pour l'instant, je dirais que nous, on a un quart de nos membres, un tiers de nos membres, qui disent, on ne sait pas finalement si on sera dedans ou si on ne sera pas dedans.
C'est embêtant quand même, comment est-ce possible ?
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le problème, c'est que quand vous avez des grandes entreprises, des grands groupes avec plusieurs filiales, des filiales qui peuvent être présentes dans plusieurs pays européens, qui peuvent être en dehors de l'Europe, est-ce que je suis dedans, est-ce que je ne suis pas dedans ? Quelle législation va s'appliquer à moi ? Celle de la Belgique, celle de l'Allemagne, celle de la France, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une directive. Et quand une directive est déployée au sein de l'Europe, chaque pays l'ajuste, avec des limites évidemment, mais quand même l'ajuste, et on peut se retrouver en effet avec des distorsions d'un pays à un autre, et c'est pour ça que pour un certain nombre d'entités, c'est compliqué. Si on prend un autre exemple peut-être plus parlant, c'est le secteur alimentaire. Le secteur alimentaire était très peu régulé en matière de cyber. Il est extrêmement régulé sur la santé et sur la protection des clients, mais très peu pas du tout pratiquement sur la sécurité. Bon, vous prenez des grandes enseignes, je vais citer Carrefour, Intermarché, etc. Il est évident qu'ils seront dans le scope de NIS 2, mais jusqu'où on va ? Jusqu'aux fournisseurs de beurre, de jambon, de l'abattoir qui va fournir les viandes, etc. Donc, c'est là, en fait, où le spectre, aujourd'hui, est encore flou et en cours de discussion.
Et vous nous dites, c'est un des premiers enseignements, des travaux, justement, que vous menez avec l'ANSSI, c'est cette question de flou qui règne encore sur les critères d'éligibilité à NIS 2. Il y a aussi cette notion de plus grande coopération qui va s'imposer en matière de cybersécurité entre les États membres.
C'est ça. Alors, une coopération entre les États membres. Il ne faut pas oublier que cette directive, elle est aussi destinée, enfin je l'ai dit, mais à vraiment harmoniser ce qui va se passer au niveau de l'Europe et à avoir effectivement une meilleure coopération. Quand vous avez... c'est un peu comme les tempêtes ou les dégâts naturels, c'est-à-dire que quand vous avez une cyberattaque, elle s'arrête pas à la frontière du pays. Donc la coopération est essentielle en ce domaine. On faisait du mieux qu'on pouvait jusqu'à présent. Maintenant, il y aura une réglementation qui nous mettra dans un cadre qui sera effectivement beaucoup plus efficace.
Et donc, ça veut dire qu'on va devoir communiquer sur les incidents de cybersécurité que l'on subit.
Voilà. Alors ça, c'est pas...
Alors, parlons-en.
Ça, c'est pas la chose la plus facile à admettre pour les entités qui, aujourd'hui, ne sont pas régulées et n'ont pas cette habitude de communiquer. L'attaque informatique est quand même restée assez longtemps une maladie honteuse. On essayait de moins en parler le possible, parce qu'effectivement, ça peut montrer une faiblesse, évidemment, de l'entreprise.
Ça ne donne pas une bonne image dans l'entreprise. Mais alors, donc, il va y avoir d'un côté les incidents majeurs et ceux sur lesquels on sera moins tenu de communiquer. Expliquez-nous.
Voilà, alors les incidents, la classification des incidents en incidents majeurs, etc., je crois que personne n'est d'accord, c'est à peu près, c'est à peu près clair. Nous, on a dit...
Là aussi, c'est un problème de définition de qu'est-ce qu'un incident majeur.
Voilà, mais nous, on a proposé un truc très simple, alors je ne sais pas s'il sera retenu, c'est de dire, pour nous, un incident, il est majeur s'il est rapporté au COMEX. Si le COMEX n'a pas à être informé des turpitudes, quotidiennes de l'informatique, alors ça n'est pas un incident majeur. Mmh. Alors c'est peut-être un peu simpliste.
Alors il y aura peut-être des tentations du coup de ne pas faire remonter tous les incidents COMEX.
À un moment donné, quand il n'y a plus rien qui marche, il vaut mieux que le COMEX soit au courant quand même. Donc plus sérieusement, je pense qu'effectivement cette notion de transparence par rapport à ce qui se passe, pour nous, elle est essentielle. Et il n'est pas question, évidemment, de cacher la poussière sous le tapis. En effet, par exemple, dans la directive, il y a un truc qui nous étonne un peu. Il y a ce qu'on appelle les incidents évités. Bon, les incidents évités, il y en a des millions par jour. Parce que finalement, quand vous avez fait votre travail, vous évitez plein d'incidents. Oui. Donc ces notions-là méritent très largement encore d'être discutées. Et nous avons déjà abordé cette discussion.
Et pour les incidents mineurs, vous proposez un anonymat.
Oui, parce que, bon, qu'est-ce qui compte finalement ? C'est de savoir que tel ou tel... groupe attaque en ce moment tel ou tel type d'activité. Peu importe, finalement, que ce soit Pierre, Paul, Jacques qui soit ciblé. Ce qui compte, c'est de savoir qu'effectivement, parce que je suis dans tel secteur d'activité, parce que il y a un groupe d'activistes qui se manifeste en ce moment, alors je peux être la cible, effectivement.
Mais en revanche, il y a un devoir de communication quand même auprès de la CNIL pour les données personnelles des clients ou des sous-traitants ou des utilisateurs qui auraient été mis en danger par cette attaque, même si elle est mineure.
Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la CNIL, c'est pareil. Il y a des seuils. Vous n'êtes pas obligé de déclarer des trucs très mineurs qui peuvent se passer sur les données à caractère personnel. Là, on est vraiment sur des choses relativement sensibles, hein, d'un point de vue, encore une fois, image, d'un point de vue continuité de l'entreprise, etc. Et je pense qu'effectivement, ce point d'achoppement sur ce qu'est un incident critique, ce qu'est un incident évité, si cette notion est retenue, on a encore un petit peu de discussion.
Et sur l'anonymat, comment sera protégé l'anonymat de l'entreprise qui déclare un incident mineur?
Oh, ça, c'est assez... Oui, on s'est anonymisé les données sans problème.
D'accord. Bon. L'agenda. Je voulais qu'on parle de l'agenda, parce que donc cette directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en décembre 2022. Oui. Quel est le calendrier en France?
Alors, le calendrier, il est... d'ailleurs, il est commun avec tout le monde. Mmh. À tout le monde, c'est...
Après, il y en a qui respectent plus ou moins,
le
vous savez,
mois d'octobre...
les États membres qui sont en retard, voilà. D'autres pas.
On doit transposer cette directive au mois d'octobre 2024, dernier délai.
Oui.
Bon. Alors, ça aura échappé à personne que, entre les Jeux Olympiques en France... les élections européennes, si je remets dans le bon ordre. Bref, ça fait tout ça, ça fait des événements qui sont en effet un petit peu perturbateurs sur ce calendrier. Donc, on peut dire que la France a toujours été bon élève en la matière. On a toujours été plutôt en avance. Bon, là, on a vu que la Belgique a tiré les premiers. Oui. Ils ont transposé cette semaine, je crois. Bon, il n'y a aucune raison, pour l'instant, à ma connaissance, qu'on ne transpose pas en temps voulu et qu'on ait effectivement besoin d'un délai supplémentaire. Ceux qui vont avoir besoin de délais supplémentaires, ça va être les entreprises.
Oui.
Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous allez découvrir, parce qu'il y en a qui ne le savent pas encore, qu'ils sont assujettis, encore une fois, en fonction de l'état de la cybersécurité de l'entreprise...
Et ça, il y a un délai qui est prévu, j'imagine.
Il y a un délai qui est prévu. Il y a déjà des entreprises qui disent que le délai, il est un peu court et qu'il va falloir le négocier. Il y a aussi des entreprises qui disent, mais financièrement, comment je fais? Est-ce que je pourrais aussi bénéficier de soutien financier? Toutes ces questions-là sont pour l'instant...
Vous avez la réponse, Alain, là-dessus?
Je n'ai pas la réponse et je n'ai malheureusement pas les réserves monétaires pour pouvoir assurer ça.
Dites-moi, je voulais savoir, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de la question des ingérences étrangères dans l'espace numérique. Est-ce que SNIS 2, par exemple, va mieux nous protéger sur ce point-là?
C'est le but. En fait, on se rend compte que, je crois que c'est 60% des attaques aujourd'hui réussies sur les entreprises sont pas le fait d'attaquer directement l'entreprise, mais on passe par le fournisseur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je vais pas attaquer EDF ou Total, je vais passer par un fournisseur, et ce fournisseur, il a peut-être des portes d'entrée plus faciles à ouvrir que chez Total, et du coup, je vais rentrer. Alors, peut-être pas chez Total, mais en tout cas, c'est l'exemple. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette directive va aussi s'intéresser à ces questions de fournisseurs. Alors, il y a des fournisseurs qui vont se retrouver...
Mais là, moi, je vous parlais d'ingérence étrangère. Je vous parlais d'ingérence étrangère dans l'espace numérique, parce que ça passe par les fournisseurs.
Mais bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, le cyberattaquant, il va chercher à trouver la porte ou la fenêtre qui est ouverte. Comme les portes et
donc,
fenêtres...
Donc mieux on sera protégé tout autour aussi de nos grandes organisations, plus on sera à l'abri de ces nouveaux risques numériques.
Oui, mais le problème, c'est que les entreprises externalisent à tout va. On externalise tout maintenant. Enfin, ouais. On ne parle pas que simplement de l'externalisation informatique. On parle bien évidemment de tout un tas de secteurs d'activité où les fournisseurs sont absolument pas, je parlais de l'environnement alimentaire tout à l'heure, les fournisseurs sont absolument pas sensibilisés à ces questions-là. Donc Nice 2 va s'occuper de ça, okay. Et du coup va contribuer à petit à petit refermer les portes et les fenêtres chez ses fournisseurs.
Merci beaucoup Alain Bouillet pour toutes ces explications sur ce sujet d'importance. Je rappelle que vous êtes le délégué général du CESIN. Merci encore.
Merci.